Ok, bon ben bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette deuxième session donc nous coordonnons moi et John Mullen qui est aussi présent devant ce grand rideau rouge très très prestigieux. Donc hier on a eu trois interventions essentiellement sur la dimension radiophonique et la nature radiophonique de la BBC. Aujourd'hui, ce sera plutôt sur des productions de fiction télévisuelle, donc c'est assez cohérent. Même si, pour faire un lien avec ce qui s'est dit hier, j'étais assez frappée de ce que chacun des intervenants a
mettre l'accent sur la dimension transmédiale du corpus de fiction qu'il a envisagé, hein, Mohamed Chamek parlant du musical
transféré des théâtres à la BBC, à la radio, a bien insisté sur cette dimension-là. Suzanne Bray, elle parlant de l'écriture de fiction, de détective, enfin d'histoire, d'enquête, etc., également avec le monde littéraire et les scénarios pour la radio, et Diane et Anne Fuchs qui intervenaient tout à la fin, elles, sur la question des sitcoms, ont montré également les relations très étroites entre la sitcom qui était d'abord un genre radiophonique, qui est devenu un genre télévisuel, et comment, en particulier le dernier exemple dont elle parlait, hein, Goodness Gracious Me est tellement emblématique du succès radiophonique qui déverse finalement ensuite sur la télé, au fur et à mesure aussi que la télé devient un médium important dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc vraiment, il y a cette dimension de transmédialité qui était très forte et finalement l'idée que la BBC n'est pas seulement un médium, mais un médiateur de culture populaire, hein, on en a beaucoup parlé hier, voilà, avec la dernière intervention de Diane et Anne Fuchs hier, on a eu vraiment ce lien vers la télévision qui nous était servie sur un plateau. Donc je vais passer la parole à notre première intervenant que je présente rapidement, Pierre Costecalde, qui est donc docteur en études irlandaises.
Si j'ai bien suivi. Donc vous avez fait une thèse en 2018 à l'université de Rennes 2 sur les télévisions en langue spécifique dans un contexte de mondialisation. Donc le sujet que vous allez nous présenter aujourd'hui est vraiment au cœur de votre
problématique de thèse, avec cet exemple d'un soap opera en gallois produit par la BBC en 1974 pour la chaîne SE4, et vous allez nous parler donc des raisons d'une réussite et d'une longévité exceptionnelle. Donc Pierre, vous avez une trentaine de minutes, hein, je vous laisse l'œil sur la montre, et nous aurons 10 minutes de questions dans la foulée.
Merci, bonjour à tous. Donc je vais commencer tout de suite. L'exposé que vous allez voir sur un corpus de 14 épisodes de Bobolly Com, produit par BBC Comrie Wales, je vais parler de BBC Wales désormais, en 2016 et 2020, et c'est, disons que les DVD ont été fournis gracieusement par S4C et BBC Wales. Cependant, après beaucoup de difficultés, parce qu'ils sont très, très difficiles à obtenir. Donc, BBC Wales, j'ai un problème avec le haut. BBC Wales, donc, a été créé en... Attendez, je suis désolé, mais j'avais mis un certain nombre d'éléments qui sont partis. A été créé en, je crois, en 1960. Attendez, est-ce que je peux enlever le haut? Parce que là, j'ai un problème de...
On voit tout, hein, sur votre PowerPoint. Là, moi, je vois bien créé le 9 janvier 1964.
Oui, c'était en 64, effectivement. Et la chaîne avait été créée, effectivement, en conformité avec la Charte royale, qui était de refléter les identités et cultures locales des nations du Royaume-Uni, en particulier du Pays de Galles. Les émissions en gallois ont été au début jugées insuffisantes par les gallophones, qui en voulaient un peu plus. Et de fait, donc le mercredi 16 octobre 1974, sur BBC One a été créé le soap opera Popol Icon, qui est produit par la BBC. Je rappelle qu'à l'époque, Harold Wilson était Premier ministre. Hein. Et le soap opera a été repris en 1982 sur la chaîne dédiée aux Gallois. Elle est entièrement dédiée aux Gallois, mais elle est bilingue aussi, espoci. Et à ce jour, 8119 épisodes ont été diffusés. La date de référence est le 21 octobre 2020. Il faut savoir que c'est une des 10 émissions les plus regardées depuis 1974 au pays de Galles. Au pays de Galles, mais vous allez voir qu'elle est diffusée dans tout le Royaume-Uni. Ah. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Voilà. Premièrement, l'environnement linguistique et institutionnel favorable. Qui diffuse à un environnement effectivement linguistique et institutionnel favorable. La première chose, c'est la démographie linguistique vulnérable du gallois, appelée UNESCO, qui considère que l'usage actuel du gallois peut être considéré comme une réussite sur le plan institutionnel. Alors, les recensements, pour vous donner une idée, en 1991, 508 000 gallophones, en 2001, 582 000, une baisse en 2011, et alors une surprise en 2020, au dernier recensement, très rapide, 8666 000. Donc 600, sujet à caution, hein, comme sont les interviews concernant la langue. Le gallois a bénéficié effectivement d'une renaissance celtique au XIXe siècle, reprise au début du XXe, hein, ce qu'on appelait la renaissance galloise, ou revival. Les dates, je vais vous en donner quelques-unes. Donc en 62, influence de l'intervention radiodiffusée par Sandor Lewis, The Fate of Language, qui a provoqué la création de The Welsh Language Society. En 67, Welsh Language Act, validité du gallois et de l'anglais dans les administrations. En 93, The Welsh Language Wales Act, qui assure aux gallois une base législative. Le 21 mars 2001, et c'est très important, ratification de la partie 3 de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires par le Royaume-Uni, et en particulier l'accès aux médias et au soutien aux activités culturelles. En 2011, une loi majeure qui est The Welsh Language Wales Measure, où le gallois devient langue officielle avec l'anglais. Et depuis 2012, lancement de programmes de promotion du gallois, qu'on appelle The Welsh Language Strategies, dont l'objectif est d'obtenir 1 million de gallophones en 2050. Tous ces éléments, effectivement, participent de façon directe et indirecte à la promotion du gallois. Et bien sûr, vont favoriser le soap opera. Mais bon. Deuxième point important, les marqueurs d'identité culturelle ou code culturel référentiel. Alors, ceci a été traité par deux auteurs qui ont étudié les séries, qui s'appellent Michel Bourse et Alim Youssel, et ils ont donc codé un certain nombre d'éléments. Alors, Michel Bourse et Alim Youssel donc, ont défini ce qu'est l'identité culturelle à l'œuvre, et ils disent dans chaque série télévisée crée un style syntaxique et visuel de référentiels propres à chaque société, lesquels peuvent être immédiatement compréhensibles et facilement mémorisables pour ceux qui en sont membres. C'est très important, ces marqueurs d'identité culturelle ou codes culturels référentiels identifient les cultures. Et je vais m'en servir. Ils sont de nature variée, formelle, graphique, gestuelle, sonore. Ils peuvent s'exprimer de façon effectivement explicite ou implicite. L'identité culturelle galloise, ou Welshness, est le produit d'une construction discursive qui est toujours évolutive. On pourra en parler, mais je ne suis pas étendu parce que c'est très compliqué. Hein. Le succès, donc, de Popol Icon est dû à la production d'un sentiment de réalité. Hein, selon la métaphore théâtrale d'Erwin Goffman, qui est un sociologue américain, et d'effets de réel, Roland Barthes, générés par la représentation de la vie d'une communauté linguistique qui est le village fictif de Coomdairy, et par les interactions entre les différents acteurs. Ce sont ces codes culturels référentiels ou marqueurs d'identité culturelle qui servent à définir la spécificité de Popol Icon. Alors, comment ils s'expriment? D'abord, par la langue, qui est l'un des éléments qui fondent l'identité culturelle galloise et le nationalisme gallois, mais ce n'est pas l'essentiel. il n'est pas nécessaire de parler la langue pour être gallois, d'après un auteur qui est Sylvain Scaglia, que je citerai par la suite. Deuxièmement, l'humour. Alors, l'humour est un des éléments. Cependant, le sous-titrage en anglais du soap opera donc traduit très mal l'humour. Il est présent dans les commérages et les réactions curieuses et soupçonneuses des habitants. Et troisièmement, un élément important, la pédagogie. L'humour, mais aussi la pédagogie, vont être les moyens d'exposer ce qu'est la protection de l'environnement en présentant le nettoyage d'une plage par des élèves d'une école secondaire et la prise de conscience du principe. Donc voilà, donc pour un exemple d'humour et de pédagogie dans le soap opera, les autres marqueurs s'expriment par la référence à certaines institutions qui sont des vecteurs de codes culturels référentiels de cette notion de Welshness qu'ont défini Alison Griffith et Caroline Lewis. Alors on a le rugby, mentionné plusieurs fois, la version contemporaine de la mame galloise personnifiée par des femmes à fort caractère, alors les Brit Monk, Eileen Waters, Sean Pierce, la religion est citée, épisode des fonds destinés à la restauration du temple, et les lieux communautaires que sont le bar, le pub, le salon de thé. Par la mise en valeur de caractéristiques considérées comme mythiques, le stoïcisme face aux difficultés de la vie, on a deux exemples, l'amour du lieu, peu de personnages déménagent, l'entente de voisinage, l'entraide, prêt d'argent, aide à, par exemple, à un agriculteur, fort lien de parenté, personnages reliés par des liens familiaux et par des recompositions familiales. On a un véritable phénomène d'endogamie sur la ville ou le village. Et la tradition de posséder son propre logement. Ensuite, passion pour l'éducation. Vous avez un exemple qui vient d'être donné, la directrice du lycée qui organise une sortie sur la protection de l'environnement. La place attribuée à tout ce qu'on appelle les lieux géographiques. Pourquoi les comptes se concentrent sur des lieux géographiques plus sur les lieux, que sur des lieux où se rassemble une communauté. Hein, c'est en se concentrer sur les lieux où se rassemble une communauté, qui sont le pub, le bar, salon de thé, la salle de la mairie, et ils offrent aux protagonistes un forum ou un endroit à débattre. Alison Griffiths écrit que cette communauté n'est pas créée par des personnes individuellement, mais par la communauté dans laquelle ils vivent. Et cette communauté a une valeur vraiment centrale. Elle résume le côté social de l'identité culturelle galloise par le terme, je ne vous le lis pas, c'est littéralement « co-communitism ». La famille, les amis, les parents ont une place centrale dans chaque épisode. Et ce sont les oppositions et les rapprochements qui forment la base narrative de Popolicom, car ils ont une valeur communautaire. La référence à des traditions communautaires, d'ailleurs, telles que, alors on trouve ça dans les extraits, enterrer sa vie célibataire, cours de diététique, toujours la communauté, tradition culinaire, en commun, hein, tous ces éléments, aussi petits soient-ils, constituent autant de bases culturelles identitaires. Et Popolicom insiste vraiment sur les événements communautaires et la participation de chacun. L'unité du soap opera est définie par la communauté où vivent les personnages. Cette communauté de Kundery donc est en contraste avec ce qui l'entoure dans une série d'oppositions binaires. Alors, on va avoir rural contre urbain, ville contre l'extérieur, c'est-à-dire ici c'est une ferme, personnel contre impersonnel, illustré, les personnages contre l'administration du Royaume-Uni notamment, bienveillant contre hostile, riche contre pauvre, et pays de Galles contre Angleterre, notamment pour le rugby. Et ce sont ces oppositions qui contribuent à la création de mythes, d'idées, et qui façonnent encore l'identité culturelle galloise. Dans le domaine social et culturel, la communauté de Kundery est confrontée à des problèmes tels que. Est-ce que je peux revenir en arrière? Non. Alors, les problèmes sont les problèmes du pays de Galles, ils sont effectivement le chômage, la recherche d'emploi. Et tous les problèmes de la vie quotidienne. Donc, tous ces facteurs contribuent effectivement à construire une identité. Et ensuite, nous avons des facteurs textuels. Alors, il y en a très peu de facteurs textuels. Ce sont les allusions à la mythologie celtique. Il y en a relativement peu. J'en ai relevé une seule, l'enchanteur Merlin, qui est mentionné à un endroit. Et c'est tout. Ensuite, très important, les anthroponymes. Alors, les noms et prénoms des personnages sont aussi des marqueurs d'identité culturelle. Ce sont effectivement les noms d'origine celtique. Alors, on a un certain nom, Make, Gethin, Sean, contrebalancés par ceux d'origine anglaise. Les marqueurs d'identité culturelle d'origine celtique ou celte sont des anthroponymes qui fonctionnent en opposition directe à la culture anglaise. Les marqueurs, donc, qui sont de type iconique dans la vie quotidienne, ils sont faits pour ancrer le soap dans la réalité quotidienne et Erwin Goffman les nomme le décor et les accessoires. Ils ont une valeur symbolique et ils servent à situer géographiquement le soap opera. J'en cite que quelques-uns, alors les publicités, les tarifs, les affiches publicitaires, tout ça est en gallois la plupart du temps et non pas en anglais. Les marqueurs d'identité culturelle Donc, identifier les cultures, elles sont de nature variée, et on trouve les codes iconiques. Et parmi les codes iconiques, ce qui est très intéressant, c'est les génériques. Les génériques de 1974 à 2019, en gros, il y a deux époques. De 1974 à 2006, on a un générique basé quand même sur les valeurs, l'identité culturelle galloise. Et de 2007 à 2018, ça s'estompe pour laisser la place à quelque chose de plus intime, mais toujours en gardant l'identité en fond. Je vais vous montrer un exemple de ce déplacement de l'identité culturelle. Alors voilà ce générique actuel. Et la vallée. Alors on remarque que le générique est accompagné d'une musique orchestrale qui a été composée par un gallois. Peu de référence à la musique, absence de musique d'ailleurs, pour créer effectivement l'effet de réel et le réalisme. Et on arrive au troisième point, pour citer Virginie Spies et Jean-Pierre Eskenazi, qui sont spécialistes de la télévision et des séries, Obelicum appartient au monde ludique, car les différents épisodes sont des spectacles qui suivent des règles du jeu et des rituels, et il appartient aussi au mode fictif, car il développe un univers fictionnel cohérent qui obéit à des codes précis. Le troisième élément très important est le format transnational de Obelicum. Carmen Conte distingue un certain nombre d'invariants. Dans le soap opéra, ces invariants, écrit-elle, permettent d'évoquer une structure générale et les caractéristiques propres au genre. En conséquence, Obelicum donc va développer un discours identitaire basé sur la langue et des codes référentiels, mais aussi sur un format préétabli, un code planétaire et transnational, celui des États-Unis, ce qui va créer un caractère hybride. Et la réussite et la longévité de Obelicum reposent en grande partie sur son caractère transnational de format soap opera. Pour réussir, un soap opera doit plaire à tout le monde et être vu par tout le monde. Un des éléments clés de la réussite de Obelicum, c'est le sous-titrage en anglais, incrusté sur l'écran, ou au choix, à partir de la télécommande. Et Obelicum donc propose sur son accessibilité aux gallophones et aux non-gallophones, c'est-à-dire aux anglais. Donc c'est extrêmement important parce que, alors je vais donner un exemple de la diffusion, et ce n'est pas la peine de tout prendre, mais actuellement, Obelicum est diffusé sur la plateforme BBC iPlayer et sur S4C Play, qui est une autre plateforme. Donc, dans tout le Royaume-Uni, on peut voir, on peut regarder Obelicum, sauf en Europe, parce qu'en Europe, à cause de la restriction des droits, c'est impossible. Les codes donc préférentiels du soap opera, on en distingue beaucoup. La périodicité, Publicom est diffusé 4 jours, du lundi au jeudi, sur des épisodes de 30 minutes, et sauf le jeudi, 1 heure. Le suspense, à la fin des épisodes, l'absence de dénouement, multiplication des arcs narratifs ou des récits, j'en ai trouvé 42, qui sont des intrigues traitées simultanément, structure protéiforme, passage rapide d'un épisode à l'autre, action peu importante car multiples incidents. Ce qui est important, c'est le commentaire des acteurs. Développement alterné de chacune des intrigues, priorité au dialogue, à l'oral et au commentaire. Publicom, donc, illustre une métaphore théâtrale. Les acteurs représentent une mise en abîme d'une communauté linguistique mise en scène dans sa vie quotidienne. Et là, je cite Daniel Mesguich et André Gauthier. Découpage en séquences courtes rythmées par de nombreux plans. Importance du plan dans la mise en scène. Gros plan, plan rapproché, plan demi-rapproché. Les gros plans ont 40% et plan rapproché et demi-rapproché 60% en gros. Pour exprimer l'expression, donner une l'expression des personnages et leurs émotions. Stabilité spatiale avec décor récurrent. Nombre réduit de lieux diégétiques. Beaucoup de scènes d'intérieur. Appartements, etc. Et certain nombre de prises de vue à l'extérieur, mais très peu, dans la rue principale. Et j'ai trouvé donc trois scènes à l'extérieur. La ferme, l'Orient Express et le bord de mer. Et multiplication des personnages, 22 dans la saison 4 et 29 dans deux épisodes de la saison 2020. Absence de héros, il n'y en a pas. Absence de morale, il n'y en a pas. Trois thèmes dominants. Le mensonge, alors illustré par des personnages. Pour François Jost, spécialiste de la télévision, il est considéré comme la relation dominante entre les individus d'une société. Le secret, qui provoque la quête de la vérité. Donc ça, c'est une des trames, Vincent Colonna, et élaboration d'une théorie, que la théorie, c'est effectivement la promotion de langue régionale. Les personnages, ce sont des stéréotypes, mais de deux types. On a des personnages de type primaire, qui sont liés au métier, à la fonction, au physique. Ce sont des personnages statiques qu'on trouve à peu près dans beaucoup de documents et de pièces littéraires. Alors, j'ai cité aussi... Et puis les personnages de niveau secondaire qui sont évolutifs, dynamiques, consubstantiels à l'intrigue et ressortent de l'action et qui donnent des personnages de plus en plus complexes. Et c'est la combinaison des traits statiques de niveau 1 et ceux dynamiques de niveau 2 qui vont être à l'origine de conflits et de confrontations. Et plus le mélange des traits est conflictuel, plus le personnage est complexe. Alors on en a un certain nombre. Et tous ces personnages d'ailleurs comportent une zone d'ombre, un secret. Publicom possède ce que Roland Barthes a nommé l'effet de réel, contact d'une durée limitée avec la diégèse, avec le non-monde réel et social, d'après Levarec, d'où recours aux thèmes familiaux et relationnels, aux thèmes généraux, et translationnés à des topoïs qu'on trouve partout. Alors ce sont les secrets de famille, triangles amoureux, enfants délaissés, relations dans le couple, et à chacun de ces éléments correspondent des personnages. L'actualité... Dans Publicom revêt deux aspects qu'on appelle la dispersion et la persistance, toujours François Jost. La dispersion, c'est l'actualité immédiate du quotidien qui se reflète dans le soap opera. Alors, on a avant appelé match de rugby, emploi illégal du cannabis à un certain moment, l'abattage des blaireaux qui a donné des réactions dans les réseaux sociaux, retour au village d'une personne condamnée pour des pédophilies, etc. Et puis on a ce qu'on appelle la persistance, qui sont des événements sociaux et politiques durables que l'on trouve dans à peu près tous les soap-opéras actuels. Éducation, violence, addiction, problèmes mentaux, ceci est tiré de mes extraits, emploi et chômage, adolescents à problème, protection de l'environnement et crise économique. Et c'est plusieurs personnages portent effectivement ces problèmes. La dimension théâtrale, alors Vincent Colonna évoque l'illusion théâtrale de Publicom, le type d'illusion mis en place n'est alors pas très différent de celui du théâtre. En tout cas, dit-il, il est clair que l'appui pris par les séries sur une réflexion sur l'évolution de la société est un invariant de la production télévisuelle de fiction et appartient à un mode constitutif. Parmi ces dernières se trouve le théâtre, alors Erwin Goffman de nouveau. Pour lui, le monde est un théâtre avec ses acteurs, son public et ses coulisses, c'est-à-dire l'endroit où les acteurs peuvent contredire l'impression donnée dans la représentation, et toute représentation contribue à produire un sentiment de réalité quotidienne comme au théâtre. Il se produit ce qu'on appelle un effet de réel, et Pobolikov va donc avoir un double destinateur, en plus des gallophones et non gallophones. Les dialogues sont destinés à la fois aux protagonistes sur le plateau et aux téléspectateurs au-delà, c'est-à-dire ceux qui regardent la télévision. Ainsi, l'effet de réel de Pobolikov donc va être basé sur des disons référents identitaires et des codes transnationaux qui contribuent de façon déterminante à son succès. Je voudrais dire en dernier lieu que le succès est porté par des acteurs dont le réalisme, vous l'avez vu, du jeu est rarement pris en défaut. Donc l'intervention, qui est très important, c'est que les téléspectateurs, les acteurs peuvent communiquer par les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter et Facebook actuellement. Et donc la communauté de Kundery continue donc à avoir du succès et à vivre. Voilà donc pour ça, et je terminerai par... J'ai peut-être sauté certaines choses, mais j'ai essayé de remplir mon contrat.
Mais... C'est très bien. Merci, Pierre.
Alors, vous pouvez avoir tout ce que j'ai dit sur... je vous l'enverrai. Hein, vous l'aurez, donc ça sera...
Voilà. Oui, c'est ce qu'on indiquait à certains participants. Voilà. Hein. Il y aura les enregistrements audio et les PowerPoint qui seront mis en ligne sur le site du laboratoire ERIAC de Rouen. Alors... Oui.